France Culture, Culture Musique.
Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver à 15h sur France Culture. Aujourd'hui encore, nous vous racontons le monde par des musiques et aussi par des paroles. Voici Culture Musique. Jusqu'à jeudi, Vladimir Cagnolari vous emmène en Afrique, à l'époque des indépendances, dont plusieurs pays fêtaient cet été le 55e anniversaire. Aujourd'hui, le Ghana ouvre le bal.
Merci Mathieu et bonjour à tous. Aujourd'hui et jusqu'à jeudi, je vous propose de vous emmener en Afrique, dans une époque, celle des indépendances, bourrée d'idéaux, d'enthousiasme, d'insouciance même, et aussi de questions. Comment construire des nations avec tant de peuples séparés par des frontières décidées par d'autres? Comment trouver une voie originale de développement qui ne soit pas calquée sur celle de l'Occident? Comment aussi retrouver la fierté de soi après plusieurs décennies de lavage de cerveau colonial? Eh bien, ça tombe bien, les musiques africaines sont au cœur de tous ces débats. Au début des années 60, la majorité des territoires africains colonisés accèdent à l'indépendance. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la donne a changé. Les vieux empires ont été affaiblis par la guerre, la France a perdu à Dien Bien Phu, elle se bat en Algérie, et l'Angleterre a dû lâcher l'Inde, le joyau de sa couronne. De leur côté, les soldats africains qui ont combattu aux côtés des Européens en 39-45 reviennent au pays avec des désirs d'égalité, l'égalité. Voilà ce que revendiquent aussi les élites africaines qui, elles, se sont formées et ont intégré l'administration coloniale. Elles demandent désormais à se gouverner elles-mêmes. C'est ce qui se passe en Gold Coast, territoire d'Afrique de l'Ouest colonisé par les Anglais. Le 6 mars 1957, son premier ministre Kwame Nkrumah proclame l'indépendance d'un nouvel État qu'il baptise Ghana, en référence au nom glorieux d'un ancien empire ouest-africain au temps où les colons n'étaient pas arrivés. Le Ghana, premier État d'Afrique subsaharienne à se libérer, fait figure d'étoile dans le ciel de ceux qui rêvent d'émancipation. Et dans tout le monde noir, en Afrique bien sûr, mais aussi aux États-Unis ou dans les Caraïbes, on fête la naissance du Ghana. Birth of Ghana, c'est le nom de cette chanson du Trinidadien Lord Kitchener, enregistrée à Londres en 1957.
This day will never be forgotten, the 6th of March 1957, when the Gold Coast successfully get your independence officially.
Ghana.
Ghana is the name.
Ghana.
We wish to proclaim, we will be jolly, merry and gay, the 6th of March, Independence Day. Nkrumah went out his way to make the Gold Coast what it is today. He endeavored continually to bring us freedom and liberty.
Ghana.
Ghana is the name.
Ghana.
We wish to proclaim, we will be jolly, merry and gay, the 6th of March, Independence Day. Began as agitator, then he became popular leader. He continued to go further, and now he is Ghana's prime minister.
Ghana.
Ghana is the name.
Ghana.
We wish to proclaim, we will be jolly, merry and gay, the 6th of March, Independence Day. The national flag is a lovely scene with beautiful colors, red, gold and green, and a black star in the center representing the freedom of Africa.
Ghana.
Ghana is the name.
Ghana.
We wish to proclaim, we will be jolly, merry and gay, the 6th of March, Independence Day. Congratulation from Haile Selassie was proudly received by everybody.
He particularly commend on the doctor's move to self-government.
Ghana.
Ghana is the name.
Ghana.
We wish to proclaim we will be jolly, merry and gay. The 6th of March, Independence Day.
Ago, at long last, the battle has ended, and thus Ghana, your beloved country, is free forever. And here I will ask the band to play the Ghana National Anthem.
Devant le Parlement, sur l'ancien terrain de polo cher aux Britanniques, une foule immense entend la fanfare jouer pour la première fois l'hymne du Ghana. Évidemment, ce n'est pas sans heurts qu'on en est arrivé là. Le parcours du Premier ministre Kwame Nkrumah en témoigne. Rentré en 1947 au pays après des études aux États-Unis et en Angleterre, il prend la tête du principal syndicat des travailleurs. Il fonde ensuite la CPP, la Convention of People's Party, premier véritable parti de masse qui réunit des ouvriers aussi bien que des employés de bureaux commis à l'administration britannique. À Accra, la capitale, leurs manifestations réunissent des foules massives et l'indépendance est leur premier mot d'ordre. Kwame Nkrumah, victime de son succès, est emprisonné. Mais aux élections de 1951, son parti remporte une large victoire qui oblige les Britanniques à le relâcher. Prisonnier, un jour, il devient le lendemain Premier ministre. Dès lors, la marche vers l'indépendance se précise. Le jour J, 6 mars 1957, Joseph Nkrumah, rien à voir avec Kwame Nkrumah, hein, les Nkrumah au Ghana sont très nombreux, Joseph Nkrumah donc était un tout jeune homme encore à l'internat. 50 ans après, à Accra, il me racontait cette journée particulière.
D'abord, on nous a donné les petits drapeaux, chacun.
Le nouveau drapeau ghanéen.
Oui, et puis on devait chanter aussi l'hymne national. Et puis on a fait les cérémonies d'échangement d'étendards. D'abord, on a baissé le Union Jack.
Le drapeau du Royaume-Uni,
oui. Oui, et puis on a enlevé celui du Ghana qui nous avons donné hip 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 hooray. Bon, le sentiment de fierté. Finalement, nous aussi, nous sommes indépendants. Oui. Parce qu'à la veille, Kwame Nkrumah a donné le discours de l'indépendance.
À la radio ?
À la radio, naturellement. Ah, oui. Avec beaucoup de crac.
Our independence is meaningless unless it is linked up with the total liberation of the African continent.
La partie qui nous a donné beaucoup d'enthousiasme, okay. The independence of Ghana is meaningless unless it's linked with the total liberation of Africa.
La libération du Ghana n'a pas de sens si elle n'est pas reliée, si elle n'est pas suivie de la libération totale de l'Afrique, c'est ça?
C'est ça. Et alors, chacun de nous a été chargé de beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'espoir et aussi la fierté d'être le premier pays africain noir qui a obtenu l'indépendance. Oui. Et on disait aussi « the best comes from the West » et nous sommes à l'Afrique de l'Ouest et c'est nous qui vont guider le reste de l'Afrique et le conduire à l'indépendance. Alors, oui.
Vous aviez quel âge, vous, à l'époque ?
Oh, j'avais 17 ans.
L'âge idéal pour vivre une indépendance.
Ah oui. La jeunesse, avec l'exubérance d'être qui va être partie de les groupes qui vont libérer l'Afrique.
Ghana, we now have freedom. Ghana, land of freedom. Toils of the brave and the sweat of their labors. toils of the brave which have brought results.
Après le défilé, vous avez fait la fête. Qu'est-ce que vous avez fait avec vos compagnons?
Bon, c'était congé. Alors, on est sorti. Cette fois-là, on nous avait donné la permission d'aller descendre aussi en ville, faire ce qu'on doit faire. Oui.
Qu'est-ce qu'on devait faire en ville ce jour-là?
Aller chercher notre copine. clandestinement. Aller plus loin, oui, parce qu'on peut arriver plus tard, si c'est déjà passé la minuit. Parce que chez nous, les écoles en internance sont toujours sévères. Oui. Et alors, on a chanté le calypso. Et puis, c'est E.T. Manson qui aussi a composé du High Life. Oui. Alors, chacun, on avait mémorisé ça aussi. Oui. Et puis Black Beats, Ramblers, chacun a composé quelque chose pour l'indépendance.
Ce soir-là, vous avez pu aussi écouter ou chanter ces chansons-là.
Ah oui, ah oui, oui.
Everybody, toils of the brave and the sweat of their labors, toils of the brave which have brought results. Ghana, Nkrumah, star of Ghana, everybody toils of the brave and the sweat of their labors, toils of the brave which have brought results. Ghana, we now have freedom. Ghana, land of freedom, everybody toils of the brave and the sweat of their labors, toils of the brave which have brought results.
On est au Ghana, juste après l'indépendance, il y a bientôt 60 ans, et la musique que vous entendez là, c'est du High Life, la bande-son de cette époque au Ghana. Le High Life, c'est la musique de la haute société, celle des élites locales qui se réunissent pour des soirées dansantes dans lesquelles on entre en costume et haute forme. On les organise même parfois sur des cours de tennis, et comme l'entrée de ces soirées était trop chère pour le commun, eh bien ceux qui écoutaient et regardaient de l'extérieur l'ont baptisé comme ça, High Life, la grande vie. Le genre musical est un mélange de tradition locale, matinée de calypso et aussi de jazz qui lui donne un petit côté smart. Le High Life, bien sûr, a eu un roi, Emmanuel Tete Mensah, ou pour les intimes, E.T. Saxophoniste, trompettiste, né en 1919, il est passé tout jeune par les premiers grands orchestres modernes de son pays. Et puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que les Britanniques ont fait d'Accra une de leurs bases, il embauche dans l'orchestre du sergent écossais Jack Leopard. Le nom du groupe, Leopard and his Black and White Spots, le léopard avec ses taches blanches et noires. Pour un orchestre qui rassemble Africains et Européens, le nom était plutôt bien trouvé. Et alors évidemment, comme saxophoniste, ça n'ouvrit pas son homme, E.T. Mensah est pharmacien le jour. Mais la nuit, dans les clubs, il se forge peu à peu un nom. Et c'est ainsi qu'il se retrouve à la tête du grand orchestre déjà célèbre des Tempos et qu'il fonde même son propre club, le Paramount. C'est là qu'il peaufine le son qui sera celui des indépendances. Son succès est énorme et après avoir enregistré quelques disques dans les studios de la compagnie Decca, il part en voyage à Londres. Or, pour les musiciens africains, la capitale anglaise est à cette époque « the place to be ». Oui, Londres est alors un point focal vers lequel convergent tous les Noirs de l'Empire britannique. Ils viennent d'Afrique, bien sûr, du Nigeria, du Ghana, du Kenya, etc. Mais aussi des Caraïbes, de Jamaïque, Trinité et Tobago. Sans oublier aussi des Noirs américains qui font escale. Et puis, dans tout ce monde, les étudiants, les dockers, les intellectuels, les artistes se retrouvent dans les clubs du quartier Piccadilly. Tous ces cousins que les routes de l'esclavage ont dispersés se retrouvent là la nuit et font bouillir une marmite musicale. Un vrai melting pot panafricain dans lequel Iti Mensah se jette avec bonheur. Il enregistre quelques disques avec des Nigérians et des Jamaïcains de Londres, comme celui que vous entendez en ce moment. Et puis il fait aussi la rencontre du célèbre Trinidadien Lord Kitchener, qu'on a entendu tout à l'heure au début de l'émission. Kitchener, alias Kitsch, comme l'appellent ses fans, est une des stars du calypso, un genre en vogue à Trinidad où l'on compose, non sans humour, des chroniques sociales ou politiques. Et quand Iti Mensah le découvre sur scène, Kitsch s'est entiché d'une nouvelle musique en vogue, le bebop. Lord Kitchener enregistre même un calypso en hommage à ses héros, Dizzy Gillespie, Charlie Parker et Miles Davis. Vous allez les entendre citer et même imiter dans sa chanson Kitsch's Bebop of Calypso.
Bebop music is really terrific. This bebop music is really terrific. Well, I nearly went crazy when I heard the record of Gillespie. It really enchanted me just to hear him play Anthropology. Yes, sir, this music is really sweeter. He continued further by composing another. This one is a smasher. Gillespie is getting greater. If you listen carefully, you will surely enjoy the melody. It sends you in a dancing heat with the drums that give you the afro beat. Yes, sir, this music is really sweeter. I'll give you the raters of different composers, two recognized artists, Charlie Parker and D. Miles Davis. Mr. Parker also plays his rating highly with Steeplechase, and Miles Davis again improved when he made this number, he called it Moon. This number is really sweeter. I think it's compulsory to bring back a lesbian. I'll give you a chorus of a number that brought him famous. He played with his heart and soul this special number on top the world. And that's how he ruled the ring and retained the name as the Bebop King. Yes, sir, this music is really sweeter.
France Culture, Culture Musique.
Vladimir Cagnolari.
Le jazz, si populaire chez les musiciens, est à l'image des clubs de Piccadilly, un mélange. Une musique de métissage qui agrège les cultures d'Afrique à celles du monde blanc et donne des fruits variés, au gré des territoires où cette rencontre s'est déroulée. En Afrique, le mot même a servi à désigner toute une pléiade d'orchestres qui s'appelait l'African Jazz ou l'Oké Jazz au Congo, le Bembeya Jazz ou le Palm Jazz en Guinée, le Mister Jazz au Mali, etc. De tout cela, on reparlera cette semaine, mais si je les cite là maintenant, c'est que, alors qu'ils s'appelaient jazz, eh bien, ils ne faisaient pas du tout du jazz, du moins au sens où on pouvait l'entendre sur disque à cette époque. Mais le mot jazz, par contre, résonnait un peu comme un paradigme. Celui des Noirs qui font leur musique avec des instruments occidentaux et qui fabriquent une synthèse de leur tradition avec des influences venues d'ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que le jazz voyage et qu'au début des années 50, il représente un certain chic en Afrique. En même temps que les musiques caribéennes ou américaines voyagent et infusent les cultures noires, elles accompagnent aussi les mouvements d'idées. On est en plein développement du panafricanisme, une idéologie qui postule un destin commun aux populations noires du monde, des populations noires qui vivent toutes à l'époque, soit sous le joug colonial, soit celui de la ségrégation. Kwame Nkrumah en devient au cours de ses voyages un fervent partisan. En 1945, à Manchester, il organise le congrès panafricain avec l'afro-américain Dubois, l'un des pères du panafricanisme. Il croise aussi la route de Marcus Garvey, jamaïcain en exil qui sera tant chanté par les Rastas et qui prenait, lui, le retour des Noirs d'Amérique sur la terre-mère d'Afrique. Garvey fonda d'ailleurs la Black Star Line, compagnie maritime chargée de ce transfert qui n'aura en réalité qu'une vie éphémère. Mais c'est justement en référence à cette Black Star Line qu'une étoile noire figure sur le drapeau du Ghana. Alors nourri par toutes ces rencontres, Kwame Nkrumah, de retour chez lui, veut faire de son pays la terre d'accueil des Noirs de la diaspora. Quant à notre roi du high life, Iti Mensa, lui aussi revient de son voyage londonien bourré d'idées, plus féru que jamais de calypso et de jazz à gogo.
Are they with you, Papa? Are they with you, Mommy? Are they with you, Papa? Ooh, all for you, all for you, E.T., all for you, all for you, E.T., all for you,
all for you, E.T., all for you, all for you, E.T., all for you. Are they with you, Papa? Are they with you, Mommy? Are they with you, Papa? Ooh, all for you, all for you, E.T., all for you, all for you, E.T., all for you. All for you, all for you, E.T., all for you. Are they with you, Papa? Are they with you, Mommy? Are they with you, Papa? Ooh, all for you, all for you, E.T., all for you, all for you, E.T., all for you.
All for you du Ghanéen Iti Mensa sur France Culture, c'est une reprise du thème Sly Mungos joué par Charlie Parker et à l'origine un vieil air créole qui trouve ses sources quelque part dans le golfe des Caraïbes. Repris par Mensa, il aura donc fait le grand voyage Caraïbes, États-Unis, Afrique. Or, comme les idées, comme les musiques, les hommes eux aussi font ce voyage transatlantique. Et pas n'importe lesquels. En 1956, le grand Louis Armstrong prolonge sa tournée européenne et joue à Accra, un événement national. À l'aéroport, il est accueilli par cette fameuse chanson « All for you » de E.T. Mensa. Sur le tarmac, Armstrong sort sa trompette et accompagne des dizaines de cuivres venus l'attendre jusqu'aux voitures. Ensemble, ils jouent sur la route qui les mène au vieux terrain de polo, celui-là même où, un an plus tard, Kwame Nkrumah proclamera l'indépendance. Quand Armstrong y parvient, 70 à 100 000 personnes sont là, et encore selon la police. C'est dire s'il y avait du monde. Et c'est parti pour un bœuf endiablé où l'on voit, oui car ça a été filmé d'ailleurs, on vous a mis la vidéo sur le site de Culture Musique, on voit donc Armstrong déchaîné qui fait danser les Ghanéennes en boubou, les Ghanéens en costume traditionnel, le tout dans une incroyable frénésie qui rappelle que le jazz et l'Afrique sont bien de la même famille. Le lendemain, Armstrong joue aussi au club Paramount avec Iti Mensa, et puis encore au cinéma opéra, un concert auquel assiste le premier ministre Kwame Nkrumah, auquel Louis Armstrong dédie cette chanson de circonstance, Black and Blue. Froid, des ressorts durs comme le plomb, j'ai mal à la tête, et comme le vieux Ned, j'aimerais être dead. Oh, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un aussi noir cafard? Pas de joie pour moi, pas de compagnie, même la souris a déserté mon logis. Et toute ma vie, je n'ai eu que ce noir cafard pour ami. À l'intérieur, je suis aussi blanc que les autres, mais ça n'arrange pas mon cas. Parce que je ne peux cacher ce qu'on voit sur ma bobine. Je suis si triste, ma vie n'est qu'épine. Mon cœur est déchiré, pourquoi suis-je donc né? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un cafard aussi noir?
Cold empty bed, springs on his lid, feel like old Ned, wished I was dead, what did I do? To be so black and blue. Even the mouse ran from my house. They laugh at you and scorn you too. What did I do to be so black and blue? I'm white inside, but that don't help my case, 'cause I can't hide what is in my face, but how would it end? Ain't got a friend. My only sin is in my skin. What did I do to be so black and blue?
Vous écoutez Culture Musique sur France Culture et c'était Black and Blue par Louis Armstrong. Une chanson que le grand Louis interpréta en 1956 à Accra, la capitale de la Gold Coast, territoire colonial qui s'apprêtait à devenir le Ghana. Oui, car c'est bien ce pays qui ouvre le bal des indépendances d'Afrique subsaharienne le 6 mars 57. Kwame Nkrumah, on l'a dit, en est le premier ministre avant d'en devenir le président en 1960. Pétri de ses idéaux panafricains, il rêve des États-Unis d'Afrique, seule manière, d'après lui, de faire face à la fringale sans scrupules des puissances occidentales. Rien d'étonnant alors qu'il organise chez lui, au Ghana, en 1958, la conférence des peuples africains. On y retrouve des pays indépendants, comme la Tunisie, la Guinée, l'Égypte, mais aussi des leaders de mouvements indépendantistes, comme Patrice Lumumba, du Congo belge, où je vous emmène mercredi. Malgré ses positions anti-impérialistes, le pays demeure encore dans le Commonwealth, et le Ghana conserve la livre comme monnaie. Une visite de la reine Elisabeth est même annoncée en 1959. Nkrumah veut avant tout faire la démonstration que les Africains peuvent se diriger tout seuls et faire un accueil somptueux à sa royale majesté. À Accra, King Bruce et les Black Beats composent même une chanson, un High Life évidemment, pour l'annoncer.
This is the day 5 billion Ghanaians will go gay. Queen Elizabeth and Prince Philip will be here that special day. We'll drink and dance the whole day and put on kente fine on that Thursday, 12th November 1959. May God bless this fine Thursday when all Ghana will go gay. Miss Elizabeth, we love you. Akwaba wa wa tu. Seven long years we waited since coronation to Canada and then Nigeria. She brought jubilation. Now hear a drum is thumping on the mighty phantom from. The Queen has come at last to Ghana from United Kingdom.
May God bless this fine Thursday when all Ghana will go gay. Miss Elizabeth, we love you. Akwaba wa wa tu.
With one accord, we wish you welcome to Ghana. The people are rejoicing from Maxim to Bolgatanga, from a leader, Dr. Nkrumah, to the lowest in the land. We all join this song of love, we know you'll understand.
May God bless this fine Thursday when all Ghana will go gay. Miss Elizabeth, we love you. Akwaba wa wa tu.
This is the day 5 million Ghanaians will go gay. Queen Elizabeth and Prince Philip will be here that special day. We'll drink and dance the whole day and put on kente fine on that Thursday, 12th November 1959.
May God bless this fine Thursday when all Ghana will go gay. Miss Elizabeth, we love you. Akwaba wa wa tu.
The State House at Accra was the scene of the farewell ball, and there was just about room for the hundreds crowding the floor. The dance, High Life, popular in the country for more than 40 years. It's described as a rhythmic shuffle, but it takes a lot of practice to do it well. It was danced to Welcome Your Majesty, specially composed for the occasion. Queen danced with President Nkrumah and thoroughly enjoyed it all. Next night, there was a grand fireworks display on Black Star Square, something for everyone to revel in.
Dans le ciel d'Accra, des feux d'artifice dessinent les visages de la reine Elisabeth et du président du Ghana. Tout s'est bien passé, même si la visite, prévue en 1959, n'a finalement eu lieu qu'en 1961. Or, en Angleterre, elle a fait l'objet d'intenses controverses jusqu'à la Chambre des communes. D'abord parce que, quelque temps avant, une bombe avait explosé à Accra, sans faire de victimes, mais privant la statue de Nkrumah d'un de ses deux pieds. Un président unijambiste, ça fait pas sérieux. Et puis, et surtout, il y a que Kwame Nkrumah devient de plus en plus autoritaire, convaincu que ceux qu'il critique sont des traîtres au pays. Des journalistes, des opposants sont embastillés. Seulement voilà, si, malgré les réserves, la reine d'Angleterre fait tout de même le voyage, c'est qu'il s'y joue une partie diplomatique. Dans cette Afrique qui s'émancipe, la guerre froide bat son plein et Moscou, comme Washington et ses alliés, se livrent de sourdes batailles sur ce gigantesque terrain de jeu qu'est l'Afrique. Concernant le Ghana, on craint que Kwame Nkrumah, qui ne cache pas ses sympathies socialistes, ne penche du côté de Moscou et ne quitte le Commonwealth. La reine a bien conscience de tout cela et passe au-dessus des dérives du président ghanéen, auquel elle offre une danse lors d'un bal donné en son honneur. À l'intérieur du pays, l'autoritarisme de celui qui se fait désormais appeler l'Osagyefo, le rédempteur, commence à irriter. Tout comme les piètres résultats de sa politique économique. Peut-être d'ailleurs la commande-t-on dans les bas quartiers, où la musique populaire, celle du quotidien, porte le nom de la boisson qui bien souvent l'accompagne, la palm wine music, la musique du vin de palme, une sorte de high life du pauvre, en somme, dont Kwabena Nyama est une figure. Cette musique, la palm wine, interprétée avec des instruments rudimentaires et au centre la guitare, va donner naissance aux guitar bands qui laisseront de côté les riches et brillants cuivres en les remplaçant par des guitares débridées. Vous l'avez compris, l'indépendance et ses lustres commencent à laisser la place aux difficultés. Mais le père de la nation, qui n'en veut rien laisser filtrer, a des oreilles partout, jusque chez les musiciens. Alors, quand le commentaire politique ou social est verrouillé, le mieux, et ça marche toujours, c'est de chanter l'amour.
Talk about my Christie, I dey laugh because I love my Christie well, well. Oh, oh. And I so, yeah. I go die for you, oh, na go die for you. Make you no worry, oh, na go die for you. I go die for you, oh, I go die for you. Christie, I go die for you. I go die for you, I go die for you. Make you no worry, oh, I go die for you. I go die for you, I go die for you. Christie, I go die for you. Christie, I like you well, well, and I so, oh, make you no worry, oh, make you no cry, oh, if you are like you, I go die for you, I go die for you, oh, I go die for you, Christie, I go die for you.
Il les Kerematang Stars dans Culture Musique ou la version électrique de la chanson à boire du vin de palme. Oui, la boisson est une affaire importante, en Afrique pas moins qu'ailleurs, surtout en période de crise. Au Ghana, les années qui suivent l'indépendance voient l'inflation grimper en flèche. Et forcément, ça se répercute sur les prix, et notamment sur le prix de la bière. Or, il y a des pays où l'augmentation des prix de la bière peut entraîner des troubles. Bon, c'est pas ce qui se passe au Ghana, mais par exemple, un artiste comme Iti Mensa, qui possède son propre club, est obligé de vendre la bière à vil prix, oui, parce que les clients menacent de ne plus venir s'il augmente ses tarifs. Du coup, il perd de l'argent, et bientôt, il doit revendre le fameux club Paramount, où Armstrong partageait la scène avec lui. Alors, le roi du high life a le blues. Et il le chante dans cette chanson, un calypso consacré à l'inflation.
Mr. Minister of Labor, you better see and cut all the prices down. Prices soaring high and high, I guess that they are going to reach the moon.
Prices soaring high and high,
I guess they are going to reach the moon.
Prices soaring high and high,
that's why I've got inflation calypso. Mr. Minister of Labor, you better see and cut all the prices down. Prices soaring high and high, I guess that they are going to reach the moon.
Prices soaring high and high,
I guess they're going to reach the moon.
Prices soaring high and high,
that's why I've called inflation calypso.
Kwame Nkrumah met fin au multipartisme, un peu comme partout en Afrique à cette époque, et il se proclame même président à vie, histoire de donner du temps au temps. De plus en plus paranoïaque, il se barricade. Il faut dire qu'il a échappé à plusieurs tentatives d'assassinat, ce qui forcément limite la convivialité. Or en Afrique, c'est bien connu, quand on est président, il y a deux choses fondamentales qu'il faut craindre. Primo, les fêtes de Noël ou de la Saint-Sylvestre, qui sont souvent choisies pour faire des coups d'État, à la faveur du relâchement ambiant qui parfois gagne les forces de l'ordre censées surveiller les bâtiments officiels. Et puis, secondo, ce sont les déplacements à l'étranger. En février 1966, c'est ce qui arrive à Kwame Nkrumah, déposé sans coup férir par une junte militaire alors qu'il séjournait en Chine. La CIA, toujours bienveillante, y a aimablement contribué. Nkrumah s'exile alors en Guinée, et l'année d'après, quoique à mot couvert, le chanteur Nana Ampadu et ses African Brothers évoquent les jeux de pouvoir pour prendre le fauteuil présidentiel. À demi-mot, bien sûr, on ne s'amuse pas avec les autorités, surtout quand elles sont militaires.
Thank you.
Pompadour, les African Brothers of France Culture. La chanson s'appelle Ébitillé, qu'on pourrait traduire par « Certains sont bien assis ». La chanson raconte de manière imagée comment les animaux de la brousse se battent pour être assis près du feu de camp, c'est-à-dire du pouvoir et des richesses auxquelles ils donnent accès. Oui, comme on dit en Côte d'Ivoire, quand on critique en chanson, on ne dit pas le nom de quelqu'un. Mais la métaphore permet à celui qui écoute de comprendre, et puis à celui qui chante de dire que non, 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 lui, il n'a jamais voulu dire ça. Kwame Nkrumah, en tout cas, a perdu son fauteuil. Bien d'autres le perdront au Ghana après lui, puisque le pays va être pour longtemps abonné au coup d'état militaire. Cela dit, son intransigeance et son autoritarisme ont fini avec le temps par laisser place à une réhabilitation dans son pays. À l'extérieur, Nkrumah reste le héros du panafricanisme dont les discours cinquantenaires sont encore souvent pertinents aujourd'hui. Et puis, grâce à lui, le Ghana est devenu la première destination des Noirs américains qui cherchent leurs racines en Afrique, à commencer par les artistes. En 71, le Ghana accueillait Soul to Soul, un fantastique concert de 14 heures avec une flopée d'artistes ghanéens et des stars américaines de la soul comme Ike et Tina Turner, The Staple Singers, Carlos Santana lui apportait sa petite touche latine et bien sûr Wilson Pickett en live à Accra. You've been all around the world singing about a thing called soul. He said, can you please tell me what is soul? I looked around at him, I said, Ringo. I said, soul ain't nothing but a feeling. He said, how do you know? How do you know when you get it? I said, it gets in your hand. Makes you clap your hand. Oh, yes, sir. I heard a sister say, it got in my feet, and I had to move my feet. Let me hear you say, yeah. How many of you think you got soul tonight? Let me see your hand. Everybody got it tonight. Let me see you raise your hand. Lord have mercy. I'm feeling pretty good right now. 1, 2, 3. Ha ha! Wilson Pickett en 1971 pendant le fabuleux concert Soul to Soul à Accra, Ghana. C'était le jour du 14e anniversaire de l'indépendance du pays. Un an plus tard, Kwame Nkrumah mourait dans un sinistre hôpital de Bucarest en Roumanie. Il était né un 21 septembre. Tiens, c'est aujourd'hui.
And I want everybody before I leave. Look here. Shake what you brought with you. 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 Don't take much.
C'était le Ghana ouvre le bal des indépendances, premier épisode de cette série consacrée aux indépendances africaines par Vladimir Cagnolari. À la console, Bruno Gagnard-Fontanille, à la réalisation, Béatrice Trichet, à la discothèque de Radio France, Michael Simon.
Voilà, coordination Mathieu Garrigou-Lagrange et collaboration Pascaline Bonnet. À toi Pascaline.
Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission et celle des semaines passées à la page Culture Musique sur franceculture.fr. Vous y trouverez les morceaux diffusés et pour cette semaine spécifiquement, un grand nombre de photos et de documents d'époque. Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter au nom de Culture _ Musique.
C'est ça qui est la vérité. Demain, nous irons en Guinée et au Mali, deux colonies françaises dont la nouvelle vie s'est construite elle aussi en musique.